Réno Days, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Immo, Bâti Radio et Radio Territoria.
Et bonjour, bienvenue sur Radio Immo, Radio Territoria et sur le YouTube de Bâti Radio. On est ravis de vous faire vivre Rénodez, le forum de la rénovation énergétique et de la performance des bâtiments pendant 2 jours à la porte de Versailles. Et c'est le moment de parler d'un levier décisif pour massifier cette rénovation énergétique du parc français. La banque de la rénovation, concept désormais au cœur des discussions entre l'État, les banques et les acteurs du logement. Cette mission a été confiée par le gouvernement à Yannick Borde, président de Procivis, aux côtés d'un collectif d'experts, élus, acteurs bancaires et institutionnels, pour imaginer justement un dispositif mutualisé, partenarial et pérenne, capable d'accompagner les ménages, les copropriétés et les collectivités dans leurs travaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Yannick Borde, président de Procivis. Bonjour.
Bonjour.
Et Guillaume Machère, directeur général de Procivis. Bonjour.
Bonjour, Bérénice.
Je suis ravie de vous recevoir, messieurs. Alors, peut-être un petit rappel du réseau Procivis.
Réseau Procivis, c'est 44 sociétés sur tout le territoire, sociétés de statut coopératif, acteurs de la promotion immobilière, de la construction de maisons individuelles, quatrième réseau d'administrateurs de biens, à la gouvernance d'un ensemble d'organismes HLM, donc un réseau qui est sur quasiment toute la chaîne du logement résidentiel, donc très décentralisé, grosse présence dans les territoires, et puis un accompagnateur aussi des politiques publiques, notamment à travers nos activités et également des engagements, ce qu'on appelle nous dans les missions, en mission sociale, c'est-à-dire une partie de nos résultats qui sont réinvestis auprès des populations modestes sur l'amélioration du logement.
Alors on va faire un focus donc sur cette rénovation énergétique avec des besoins colossaux, plus de 10 millions de logements à rénover d'ici 2034 pour un volume estimé à 96 milliards d'euros par an à financer d'ici 2030. Bon, vu l'état actuel des finances l'actualité politique, c'est un peu compliqué, on le sait. Yannick Borde, donc vous avez remis au gouvernement un rapport, une mission justement sur la banque de la rénovation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le mandat initial qui vous avait été confié, justement, et la philosophie de cette démarche ?
Alors, le mandat initial, c'était de se poser la question de savoir comment on pouvait accélérer sur et massifier le financement de la rénovation énergétique des logements, au départ. À la fois individuel et copropriété. Très vite, il y a eu 2 corrections qui ont été apportées dans la mission. La première, c'est que l'angle amélioration de la performance énergétique n'était pas suffisant. Il fallait rentrer sur l'amélioration globale du logement. Donc à la fois pour traiter la problématique de la consommation énergétique et donc de la performance énergétique du bâtiment d'hiver. Et puis on a bien vu depuis quelques temps aussi d'été. Donc on est rentré sur quelque chose qui était beaucoup plus général sur l'amélioration du logement, complété par le fait que dans la crise immobilière qu'on connaît de la construction neuve, si en plus on a des logements existants qui sortent du marché, c'est quand même un renforcement de la crise, donc il faut les préserver. Et puis très vite, on a aussi obliqué en disant, bon, sur le logement individuel, normalement l'offre bancaire doit être satisfaisante, c'est-à-dire le particulier qui est dans sa maison, il doit pouvoir aller voir sa banque, et aujourd'hui il y a des financements en plus des financements publics qui doivent pouvoir être apportés. C'est un petit peu plus compliqué sur le volet de la copropriété, donc on a réorienté.
C'était là où ça bloquait.
En fin de compte, ce qui se passe, c'est que de toute façon, ça fait un petit moment qu'on tourne autour de tout ça, la massification, si on ne traite pas la copropriété, il n'y aura pas de massification, c'est en copropriété qu'il faut le traiter. Donc le sujet, il est un peu complexe, le processus de décision en copro est assez particulier, il est difficile, il est long, il est lent, donc il faut traiter tout ça. À partir de là, les ministres ont considéré, et nous on partage ce point de vue-là, que toutes les briques du puzzle, ou toutes les pièces du puzzle existent, notamment la dernière étant le prêt copro imaginé dans la loi d'avril 2024 sur l'habitat indigne, sauf qu'on voit bien que c'est pas hyper bien monté, que ça s'emboîte pas complètement, donc comment est-ce qu'on fait pour accélérer le fait que toutes les briques soient mieux emboîtées, et puis dans un moment aussi où l'argent public est quand même un peu rare, voire incertain, voire instable,
tout ça,
comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'on met un peu ça de côté, on essaye de s'affranchir un petit peu de cette instabilité, de cette imprécision de l'argent public.
Un petit mot peut-être justement sur la loi 2024 concernant les aides pour les copros, pourquoi ça marche pas, parce qu'on a eu pas mal d'auditeurs qui se posent des questions.
C'est pas que ça marche pas, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, la partie aide publique, elle est hyper compliquée, quoi. C'est-à-dire que pour s'y retrouver.
C'est mal compris, en fait.
C'est mal compris, ça bouge sans cesse, c'est instable. La personne toute seule dans son logement individuel, c'est quand même un combat pour elle, une forêt pour s'y retrouver, donc c'est assez compliqué. Et sur la copropriété, le temps étant assez long de décision et d'avancement dans les investissements, il y a de fortes probabilités qu'entre le moment où vous avez commencé à vous gratter la tête pour avoir l'idée de démarrer et le moment où ça va se mettre en place, les lois auront changé. Donc ça, c'est un vrai sujet qui d'ailleurs est revenu de la part de tous les acteurs, c'est comment on stabilise les dispositifs publics. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en gros, dans des formes de travaux, il y a trois sources de financement. Il y a l'argent public, il y a votre épargne, et puis s'il y a un besoin, il y a le prêt qui va couvrir le besoin complémentaire. Et là, sur le volet copropriété, on a un déficit aujourd'hui d'offres bancaires. Donc la loi de 2000...
Les banques n'y vont pas, pourquoi juste ?
Bah parce que c'est une matière qu'elles maîtrisent mal.
Ouais.
C'est compliqué, le syndicat de copropriétaires, c'est un truc qui n'est pas une personne morale telle qu'elles ont l'habitude de le traiter, qui est une somme de personnes physiques. On fait le prêt à qui ? Aux particuliers. Donc jusqu'à présent, l'offre qui existe, qu'elle mérite d'exister, celle du groupe BPCE, elle finance le particulier. Et le prêt qui est dans la loi d'avril 2004, le prêt collectif, lui, il a plutôt vocation à financer le syndicat de copropriété. Donc, pour les banquiers, il faut s'approprier ce machin, là, le syndicat de copro, qui n'est quand même pas un sujet très simple en matière notamment d'analyse de risque, de probabilité de défaut, de garantie, etc.
Alors, pour en revenir à ce rapport que vous avez remis, cette mission, on parle plutôt d'un instrument mutualisé plutôt que d'une nouvelle banque publique. Pourquoi ?
Alors d'abord, on a très vite éliminé, c'était pas la commande en plus, mais on n'était pas du tout sur ce champ-là, d'avoir un outil public. Ce qui doit exister, c'est un outil bancaire classique. Après, la question qui va se poser, elle est assez simple, hein, c'est est-ce que toutes les banques, chacune dans leur coin, avec leur propre stratégie, déploient l'offre bancaire, ou est-ce qu'au contraire, on est sur un sujet qui est un petit peu différent, qui est peut-être plutôt un outil de place, comme elles savent le faire, comme les grandes banques françaises, les sept grandes banques françaises le font dans plein de domaines. Est-ce que c'est un outil plutôt qui est partagé, c'est-à-dire pas un outil nécessairement d'enjeu concurrentiel entre elles, parce qu'elles ont déjà leurs clients, et certaines nous ont dit, nos clients, nous, ils sont déjà dans les copros, c'est vrai qu'on n'est pas très bon sur l'offre copro, voire on est absent, donc comment est-ce qu'on sécurise ça pour nos propres clients? Peut-être que c'est pas un enjeu de concurrence, c'est plutôt un enjeu de place. Voilà, donc il y a un peu les deux versions aujourd'hui qui sont sur la table. Nous, on a remis une copie avec une orientation qui est plutôt...
Donc ce sera un outil commun, en fait.
Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ont fait des financements. Dans ces financements, il y a des mécanismes de garantie, souvent de cautionnement. Les outils de cautionnement, ils sont partagés entre plusieurs banques, personne ne le sait. Donc c'est pas très grave. Et donc c'est de se dire comment est-ce qu'on mutualise. Comment est-ce qu'on partage et comment... Alors, partager, pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? C'est que le ticket d'entrée de... Le marché, vous avez annoncé le chiffre, c'est-à-dire de 96 milliards, il n'y a pas de débat sur les données aujourd'hui. La question, c'est sa maturité, le délai dans lequel il est mis en action. Et en face de ça, la création d'un établissement bancaire, c'est des investissements informatiques, c'est une licence bancaire, c'est du personnel à former et à maintenir à compétence. Donc il y a une espèce d'hésitation à investir, non pas sur la profondeur du marché, mais le temps qui va être à maturité. Donc on s'est dit que plutôt que chacun le fasse dans son coin, c'est peut-être pas plus mal que de partager l'opération.
Alors, les travaux du rapport soulignent plusieurs freins, hein, donc fragmentation des dispositifs, c'est encore plus d'actualité, complexité des aides, absence de préfinancement, inadéquation des produits bancaires. Quels sont, selon vous, les obstacles, on va dire l'obstacle prioritaire à lever pour fluidifier le financement des rénovations ?
On a dit que l'outil mutualisé devait avoir deux parties. La première, c'est de vraiment avoir une offre de prêt aux copropriétés très puissante, et c'est le prêt collectif de la loi d'avril 2024. Quand on a remis le rapport le 11 juillet à Éric Lombard, qui était ministre de l'économie à l'époque, et Valérie Létard, ministre du logement, Valérie Létard s'était engagée à ce que dans l'été, tous les décrets relatifs au prêt collectif soient pris, ce qui a été le cas. Donc aujourd'hui, il n'y a plus rien qui s'oppose. Alors on devine bien qu'il y a des petits irritants dans les décrets. Il y a peut-être une virgule à un moment donné qui n'est pas très bien placée, qui peut re-questionner. Mais à un moment donné, il faut y aller et puis on corrigera toutes ces choses-là. Et la deuxième partie, c'est le préfinancement des aides publiques. Les aides publiques, elles sont nécessaires sur un certain nombre de clients et de
dossiers.
Donc
MaPrimeRénov', les
C2E. Oui, les C2E, MaPrimeRénov', copropriété, etc. Mais on voit bien qu'il y a un petit problème entre le déclenchement de l'aide, le moment où elle est versée, le solde, etc. Donc il faut trouver un mécanisme de subrogation qu'on connaît, qui fonctionne dans certains engagements, dans les engagements sociaux par exemple du réseau Procivis, ça marche, donc je vois pas pourquoi à l'échelle plus bancaire ça marcherait pas. Donc comment est-ce qu'on accélère les choses, qu'on sécurise les choses pour que ce soit sécurisé pour le client, et que ça soit pas l'artisan qui se fasse le banquier à la place du banquier.
Quand vous dites ça marche pour le réseau Procivis, c'est-à-dire
Nous on a un système comme on est un statut coopératif, on a ce qu'on appelle des missions sociales, on a un engagement 2023-2030 où on accompagne à hauteur de 500 millions les populations modestes dans l'amélioration de leur logement. On a un système de subrogation avec l'ANA qui fait que c'est nous qui recevons la subvention une fois qu'elle est validée, ce qui nous permet de la préfinancer, de la verser aux clients, en tout cas de payer les entreprises et de nous faire rembourser à la fin du chantier.
Il n'y a pas d'avance pour l'artisan,
il n'y a pas d'avance par le bénéficiaire. Alors c'est vrai que nous, c'est un engagement sociétal. Demain, si on veut le bancariser et l'institutionnaliser, il faudra le faire de façon un petit peu différente.
Mais notamment vous êtes solide, en fait.
Oui, et puis nous, on ne demande pas de rémunération dessus. C'est pour ça que c'est un engagement sociétal. Demain, il faudra trouver le modèle économique un petit peu de ce financement-là, mais on l'a produit, ça marche. Voilà, il y a quelques petites choses à régler, vraisemblablement, mais le système de la subrogation, ça marche, et il faut faire confiance à l'ANA, qui devrait quand même faire un petit effort sur les délais de règlement de ces soldes de subvention. Je pense que là, il y a un petit sujet encore à caler.
Oui, petit.
Sujet.
Du coup, le rapport propose une plateforme partenariale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionnerait concrètement, en fait ?
L'idée, c'est qu'on a besoin d'une expertise bancaire pour le financement, mais on a aussi besoin d'une expertise immobilière pour accompagner la décision de travaux, choisir les bons artisans, etc. Et donc, une des originalités de la proposition de Banque de la Rénovation, c'est que le front office soit finalement assumé par les syndics, les AMO, les gens qui sont des spécialistes de l'immobilier.
Donc sur le terrain.
Sur le terrain. Et donc finalement, la Banque de la Rénovation va s'arrêter à un niveau d'animation des experts immobiliers qui sont sur le terrain, encore une fois, syndics, AMO, opérateurs.
Et qui apporterait les fonds ?
Après, c'est un établissement bancaire ou alors soit un serviceur, ce qu'on appelle un serviceur, c'est-à-dire qui fait que de la prestation de service pour l'établissement de bancaire avec le prêt dans l'encours des banques, soit un établissement de plein exercice avec le financement, enfin le prêt au client dans son propre encours et dans le bilan de la structure financée. Donc après, il y a deux ou trois questions. Comme tout établissement bancaire, il y a un sujet de montée au capital qui est au capital. Donc nous, aujourd'hui, on refait le tour des établissements bancaires comme ça a été demandé par les ministres. Entre celui qui fait un peu et qui voudrait faire plus, celui qui fait pas du tout et qui a envie de développer tout seul, et puis d'autres qui font pas du tout mais qui se disent seul, je n'irai pas, mais à plusieurs, je veux bien regarder. Voilà, donc on est un peu sur les trois champs. Donc après, il faut modéliser à la fois la dotation en capital, les systèmes de refinancement. Je pense que c'est pas super compliqué à partir du moment où vous avez les banques au capital. Il y a d'autres mécanismes, après un peu techniques, je ne vais pas rentrer dedans, mais les systèmes de titrisation, etc.
Donc, qu'il y a la mutualisation des risques aussi.
Oui, la question du refinancement, ce n'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est quoi l'ambition, c'est quoi le rythme et c'est quoi le délai. Et entre nous, si ça devait être facile, ça serait déjà fait. Donc, et on voit bien que les freins sont le coût d'investissement pour l'établissement financier par rapport à la maturité de ce marché. Je réinsiste sur ce qu'il y a tout à l'heure, un coût informatique, un coût de formation des collaborateurs, certainement un coût de refinancement, mais ça c'est à peu près calé, et puis ce qu'on appelle dans le milieu bancaire le coût du risque. Et on a vu, enfin, avec Guillaume, on a fait toutes les auditions d'établissements financiers, des auditions aussi d'un certain nombre d'acteurs de l'habitat, une décorrélation entre la perception des uns sur la notion de risque de défaut financier d'une copro. Quand on est syndic, on dit c'est quand même très très rare d'avoir une copropriété qui se retrouve en impasse de trésorerie. À la rigueur, ça peut se retrouver plus de façon...
Même ces dernières années ?
Oui, même ces dernières années. Ça peut se retrouver sur une petite copropriété, parce que quand vous avez 10 copropriétaires, vous en avez un ou deux qui ont du mal à payer, c'est plus compliqué. Quand vous commencez à en avoir 40 ou 50, s'il y en a un ou deux qui ne payent pas, je dirais, je ne veux pas dire que c'est la collectivité qui paye pour tout le monde, mais le flux de trésorerie de la copro, vous l'avez. Donc, la question de la défaillance, et côté bancaire, il faut absolument qu'on se parle entre les deux professions pour partager l'analyse de risque, ce qu'on appelle le coût du risque, la probabilité de défaut, qui est aujourd'hui pas partagée. Voilà. Mais parce que aussi, même si les deux se connaissent bien, ils se sont pas beaucoup parlé ces dernières années sur le cœur de métier.
Et alors le rôle de Procivis dans cette architecture ?
Procivis, il a, j'aurais tendance à dire, il a pas nécessairement de rôle. Nous, on avait le rôle de conduire la mission. Pourquoi est-ce qu'on a conduit la mission ? Je pense qu'il y avait trois raisons qui fait qu'on a été choisi sur la mission. C'est que d'abord, on est le quatrième acteur de l'administration de biens, premièrement. Deuxièmement, on est acteur depuis le début du plan initiative copropriété. Donc, on est identifié comme un acteur de la copro, mais aussi comme la volonté d'avoir des engagements sociaux qui fait que on aime bien, alors en tout cas le président que je suis aime bien que les équipes se coltinent des dossiers un peu compliqués de copropriété, parce que je pense que c'est là qu'on a aussi une vraie valeur ajoutée. Il se trouve qu'historiquement, on a aussi un passage dans l'activité bancaire, donc on est quelques-uns dans le réseau, je pense faire partie, à avoir aussi une culture financière qui permet de ne pas trop se disperser, et en tout cas d'être sur des lignes ou des traces qui sont à peu près faisables et à peu près réalistes. Voilà, donc c'est pour ça. Après, l'avenir, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ce rapport ? Je dirais, est-ce qu'il finit comme un certain nombre de rapports, oui, classés vertical ou horizontal, comme on veut, mais sans suite ? Est-ce que certains s'en saisissent en totalité, partiellement ? Donc ça, c'est le travail qu'on est en train de faire avec Guillaume, à revoir tout l'établissement bancaire de la place. On en a fait quelques-uns.
Donc là, vous faites le tour, c'est ça ?
Voilà, normalement, fin du mois, c'est fini. Début du mois de novembre, tous les rendez-vous sont quasiment pris. Certains nous ont dit on fait déjà, d'autres nous ont dit on va faire tout seul, d'autres nous ont dit on a envie de faire mais pas tout seul. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui se sont rétractés depuis ?
Non, après, ce qu'il faut commencer juste à avoir à l'esprit, c'est qu'aujourd'hui, sur le financement du particulier, financement de l'habitat du particulier, vous avez les trois réseaux mutualistes plus la Banque Postale, vous avez 90% du marché. Donc je ne veux pas sous-estimer les autres acteurs, hein, notamment les grandes banques AFB qui sont plutôt présentes sur Paris-Île-de-France et peu présentes sur la province. Mais voilà, il faut aussi qu'on ait embarqué, en gros, un des grands. Quoi. C'est aussi ça un peu l'objectif.
Un petit mot peut-être sur la situation actuelle. C'est vrai qu'on n'a pas de ministre, plus de ministre du logement. Quelles sont les attentes du groupe, du réseau ?
Nous, on n'a pas d'attente. On fait notre métier, on essaye de le faire bien, et on essaye d'avoir des idées pour continuer à avoir des offres adéquates à ce que attendent nos clients. Et ça fait déjà un petit moment qu'on a pris le parti
de prendre les devants,
essentiellement sur nous-mêmes, et ça nous réussit pas trop mal.
Oui, ce que je peux rajouter, c'est que on fait attention comment on l'exprime, mais on voit bien que dans notre secteur d'activité du logement, si on pouvait se désensibiliser un petit peu à l'action publique, ça ferait pas de mal. C'est pas pour autant que dans un certain nombre de domaines, le logement social, l'accompagnement dans les travaux d'amélioration du logement, la question des populations les plus fragiles, les plus modestes, il y a besoin d'accompagnement public. Mais aujourd'hui, on voit bien que dans le contexte politique qu'on en a, si on attend les réponses, je pense qu'on se reverra dans quelques mois avec les mêmes questions et pas plus de réponses. Donc il faut qu'on accélère et qu'on continue de faire, si possible avec, si possible sans. On pourra pas tout faire sans, mais en tout cas, il faut en faire une grande partie. On a quand même une crise politique évidemment majeure, on a une crise économique quand même qui n'est pas très loin, on a une crise du logement qui elle est partagée aujourd'hui par tous, y compris par la sphère publique. Ça a mis du temps à venir, mais aujourd'hui c'est le cas. Donc il va falloir s'en sortir sans attendre d'avoir des réponses de l'État à tous les étages. Quoi.
Un petit mot sur Rénodez, c'est la seconde édition. Quels sont les objectifs de votre venue ici ? Est-ce que vous avez des points en particulier ?
Nous, on pense qu'il faut travailler ensemble dans cette période pour trouver les solutions. Quand on dit on doit compter sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes en tant que pro-civisme, mais nous-mêmes en tant qu'acteurs du secteur. Et donc, on a conscience qu'on a besoin d'être réunis pour être intelligents, et donc voilà, partager des retours d'expérience, des idées, etc. Et c'est l'occasion de ces salons professionnels de stimuler cette réflexion collective. Donc, on parlait de la Banque de la Rénovation tout à l'heure. Par exemple, Saint-Gobain, qui est un des acteurs importants, si ce n'est leader dans l'organisation de ces Rénodays, peut-être qu'il a un rôle à jouer dans la Banque de la Rénovation. Voilà, c'est le genre de choses qu'on vient tester et discuter.
Donc là, vous êtes attendu. Je crois que je dois vous libérer, justement, messieurs, pour aller sur le stand Saint-Gobain. Bon, merci en tout cas à vous deux d'être venus sur le plateau de Radio Imo, Radio Territoria et Bâti Radio. On se retrouve demain pour la suite de Rénodez en direct de la Porte de Versailles. On vous fait vivre ce forum. À demain.
Rénodays, le forum de la rénovation énergétique globale et performante des bâtiments sur Radio Imo, Bâti Radio et Radio Territoria.